Je vais vous présenter maintenant notre conférencier de ce soir, donc Jean-Paul Bert. Jean-Paul Bert est chimiste, il est directeur de recherche au CNRS, il est directeur du laboratoire de chimie génétique à l'université Louis Pasteur à Strasbourg. Concernant son parcours, en 1973, il est docteur en sciences. En 1989, il crée le laboratoire de chimie génétique à la faculté de pharmacie de Strasbourg. Jean-Paul Bert est spécialiste de chimie génétique. Ses travaux le conduisent à développer des molécules se fixant à l'ADN dans le domaine des biotechnologies et de la thérapie génique. Plusieurs composés issus de ses recherches sont commercialisés comme vecteurs de transfert de gènes, Transfectam, Lipofectamine. À l'étranger, il est surtout reconnu comme pionnier pour son travail de recherche à l'interface de la chimie, de la biologie et de la médecine, où il a collaboré activement avec des groupes industriels et avec des laboratoires de recherche clinique dans les domaines de la cancérologie, de la mucoviscidose et du sida. Il s'oppose en précurseur de la chimie génétique. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il est également éditeur associé du Journal of Gene Medicine. Il est lauréat de la médecine d'argent du CNRS en 1998, du prix Paul Ehrlich de la Société de chimie thérapeutique, ainsi que du prix de chimie de l'Académie des sciences. Je lui cède donc maintenant la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un quart d'heure de débat avec le public. Merci beaucoup.
Merci. Tout d'abord, bonsoir messieurs, dames, et merci de vous être déplacés. Je crois bien que c'est la première fois que je fais une conférence pour tout public, comme on dit. Et à cet effet, je vous ai préparé une présentation sur ordinateur en français. Et j'espère que tout va bien se passer. Je vais essayer de parler plus fort. Ça va mieux comme ça ? Bien, pour commencer, je dois dire que j'ai un peu regretté, après avoir donné ce titre de virus artificiel, qui sonne un peu étrange dans le contexte politique international actuel. Alors, je voudrais commencer par vous rassurer et vous dire que la raison pour laquelle nous préparons des virus artificiels n'a rien à voir avec des intentions terroristes, vous vous en doutez, mais c'est tout au contraire pour essayer d'introduire des gènes dans les cellules de malades en espérant les soigner. Donc ce titre n'est pas très adapté, mais en fait, un titre alternatif qui aurait été plus proche du message que je voudrais faire passer aujourd'hui, en fait, n'est pas bien meilleur, parce que des virus inertes, on a du mal à soulever l'enthousiasme des foules avec un titre comme ça. Mais finalement, que ce soit des virus artificiels ou des virus inertes, dans son essence, ce que nous essayons de faire, et ce dont je vais vous parler ce soir, c'est par la chimie d'essayer de fabriquer des particules qui ressemblent à des virus, mais qui n'aient pas les inconvénients réels ou supposés des particules virales pour transférer des gènes dans des cellules. Alors, s'il est relativement facile d'éviter les écueils et les problèmes posés par les virus, on va voir aussi qu'il est relativement difficile de garder les propriétés qui font que les virus sont tellement bien pour la thérapie génique. Ce qui, en langage populaire, se dit essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous faire l'affront, ou pas faire l'affront à Axel Kahn, de supposer que vous n'avez jamais entendu parler de thérapie génique. Je vais donc supposer que vous savez, en gros, ce que veut dire la thérapie génique. Et avant de parler de vecteurs et de méthodes d'introduction de gènes dans des cellules d'un malade, on va s'intéresser, pendant une diapositive au moins, à l'autre côté de la lorgnette, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'autre extrémité dans les essais cliniques. Et je vous ai rassemblé quelques statistiques sur les essais cliniques de thérapie génique qui sont en cours actuellement, les statistiques les plus récentes, qui datent de 2001. Alors la thérapie génique, actuellement, fait sa traversée du désert, comme vous avez pu vous en rendre compte par la presse. C'est quelque chose qui a démarré il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui tarde à devenir une réalité. Et pour les patients, bien sûr, les choses ne vont jamais assez vite. Et d'ailleurs, elles ne vont pas assez vite non plus pour les financiers, mais dans ce cas-ci, les raisons sont un peu moins justifiées. Alors, comme vous pouvez voir, il y a environ 500-550 protocoles cliniques de thérapie génique qui sont en cours actuellement de par le monde. Et comme d'habitude, les États-Unis se taillent la part du lion de ce gâteau. Vous voyez que les trois quarts de ces protocoles ont lieu aux États-Unis. Ceci est vrai d'abord pour des raisons historiques. Toute cette histoire a débuté aux États-Unis dans le milieu des années 80, où ont été développés les premiers vecteurs pour transférer des gènes dans des cellules. C'est encore aux États-Unis qu'a eu lieu le premier protocole clinique de thérapie génique en 1991. Et enfin, c'est encore aux États-Unis qu'il y a une myriade de sociétés de biotechnologie qui développent des vecteurs pour la thérapie génique et qui trouvent de l'argent pour financer les protocoles cliniques qui reviennent très cher. Donc pour toutes ces raisons, les trois quarts de ces protocoles ont lieu aux États-Unis. Mais si vous regardez, pour ce qui nous concerne en Europe, la France, qui est cette petite partie du gâteau en marron, finalement, dans le contexte européen, la France n'est pas si mal placée. Et ceci est dû essentiellement au fait qu'en France également, il y a une recherche de grande qualité dans les années 80 pour le développement de vecteurs pour transférer des gènes dans des cellules. Et c'est aussi grâce à l'AFM, une association caritative que vous connaissez sans doute, qui a soutenu financièrement les premiers développements de vecteurs et qui a fait passer auprès du public une image très positive du transfert de gènes, ce qui n'était pas évident a priori et qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne ou en Suisse, où l'implantation de protocoles de thérapie génique a pris beaucoup plus de temps. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que la thérapie génique qui initialement est prévue pour corriger ou pour même guérir potentiellement des maladies génétiques, quand vous regardez, la plupart des protocoles cliniques concernent le cancer. Il y a beaucoup de raisons à cela, si vous voulez, mais les plus simples à comprendre, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup plus de personnes qui meurent du cancer que de personnes qui meurent de maladies génétiques. Et par ailleurs, même avec des techniques de transfert de gènes relativement imparfaites telles qu'elles sont en ce moment, on peut néanmoins espérer, notamment avec l'aide du système immunitaire qui est un réel amplificateur du transfert de gènes ou de ses conséquences, espérer soigner des patients atteints de cancer, ce qui explique cette prédominance d'une maladie acquise dans les protocoles de thérapie génique. Enfin, et c'est là que le bât blesse un peu, c'est que la plupart de ces protocoles de thérapie génique sont dans une phase très préliminaire où l'on ne recherche pas encore l'efficacité thérapeutique, mais où l'on regarde simplement si on peut implémenter cette technologie qui est très complexe dans un environnement hospitalier et l'on regarde s'il n'y a pas des conséquences néfastes à ce transfert de gènes. Donc ces protocoles ne recherchent pour l'instant pas essentiellement à guérir des malades. Alors, je vous ai dit que c'en était à la traversée du désert. Et heureusement, il y a eu une oasis dans ce désert. C'est le travail remarquable qui a été fait à l'hôpital Necker par l'équipe du docteur Alain Fischer, cette équipe qui est conduite essentiellement par Marina Cavazzana-Calvo et de nombreux autres collaborateurs, qui ont réussi à soigner une dizaine de bébés bulles il y a quelques années. Et ces bébés bulles, donc, qui étaient dans un environnement hospitalier stérile, sont actuellement chez eux, en bonne santé, et suivent une scolarité, semblerait-il même, normale. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont au courant, il y a eu récemment un de ces enfants qui a développé une maladie du sang qui ressemble à un cancer, mais ceci n'enlève en rien le fait que 90% de ces enfants sont guéris. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'implémenter la thérapie génique? Pourquoi est-ce qu'il est difficile de réaliser le transfert de gènes? Eh bien, la raison principale en est que le médicament, le gène, est une molécule très particulière. Parmi les médicaments, ça n'a rien à voir avec l'aspirine, c'est une molécule qui est énorme, une macromolécule, qui porte un grand nombre de charges négatives, des dizaines de milliers de charges négatives, et que pour exercer son effet thérapeutique, il faut pouvoir introduire cette molécule dans le noyau des cellules. Alors, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de raisons qui s'opposent à ce transfert. On peut les classer, si vous voulez, de manière un peu simpliste, en des raisons chimiques et des raisons physiques. D'abord, les raisons chimiques. un gène et l'ADN, vous savez, c'est une molécule qui est extrêmement stable. On peut bouillir l'ADN, on peut le mettre dans la soude, on peut le mettre dans de l'acide chlorhydrique, il ne bouge pas, parce que c'est le support de l'hérédité. Donc il faut que ce soit une molécule stable. Mais par l'information génétique qu'elle véhicule, elle est un danger potentiel pour tous les organismes vivants lorsqu'ils viennent de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle tous les organismes se protègent d'acide nucléique venant de l'extérieur en sécrétant des enzymes qui vont dégrader cet ADN, qui s'appelle des nucléases. Ce qui fait que dans le milieu extracellulaire, par exemple dans le sang, la durée de vie de cette molécule est d'une dizaine de minutes. En 10 minutes, elle est dégradée. Et même à l'intérieur, dans le cytoplasme des cellules, cette molécule est encore dégradée en des temps qui sont de l'ordre de l'heure. Donc il faut protéger l'ADN dans son parcours jusqu'au noyau de la cellule. Voici pour les raisons chimiques. Tant pour les raisons physiques, en fait, l'extérieur de la cellule n'est pas du tout une solution aqueuse. L'environnement d'une cellule est quelque chose de solide. Il y a de la matrice extracellulaire, il y a d'autres cellules, et une molécule aussi grosse qu'un gène ne peut pas se frayer librement un passage à travers tout ce milieu. La même chose est vraie à l'intérieur de la cellule, qui est un milieu très hautement organisé, et une macromolécule de la taille de l'ADN non plus ne peut pas se mouvoir librement à l'intérieur du cytoplasme et se diriger vers le noyau. Et pour couronner le tout, la cellule est entourée d'une membrane et le noyau est entouré d'une double membrane. Il faut donc que cet acide nucléique, qui n'est essentiellement soluble que dans l'eau, c'est une molécule qui est ionique, ionisée, ne peut pas passer librement les barrières lipidiques. Donc il y a beaucoup de raisons qui font qu'il est très difficile de faire pénétrer un gène dans le noyau d'une cellule, et qu'il faut donc un vecteur, quelque chose pour le protéger et pour le conduire jusqu'au noyau de la cellule. C'est donc l'intérêt de ces vecteurs dont je vais vous parler. Les premiers vecteurs qui ont été développés dans la deuxième moitié des années 80 sont des virus, puisque les virus, au cours de l'évolution, ont pu développer des moyens de pénétrer, de faire pénétrer leurs propres gènes dans les cellules. Donc ce que font les chercheurs, c'est qu'ils enlèvent l'essentiel du matériel génétique du virus à l'intérieur de la particule virale et le remplacent par le gène thérapeutique, en espérant qu'ensuite, cette capside virale gardera la propriété, ce qui est d'ailleurs essentiellement vrai, de conduire le gène thérapeutique jusque dans la cellule. Alors l'avantage qui est lié à l'évolution de ces particules est que les virus sont effectivement, généralement, très efficaces pour faire pénétrer des gènes dans des cellules, puisqu'il suffit d'une dizaine ou une centaine de ces particules par cellule pour que cette cellule se mette à exprimer le gène thérapeutique. Mais pour les mêmes raisons d'évolution qui ont conduit les virus à devenir aussi efficaces pour pénétrer dans les cellules, puisque les organismes vivants, les hôtes de ces virus, survivent actuellement, eh bien, ces hôtes et les vertébrés, et notamment les êtres humains, ont développé des moyens extrêmement efficaces pour stopper, pour neutraliser ces virus, et même pour reconnaître les cellules qui ont hébergé un virus éventuellement et détruire la cellule correspondante. Ce qui fait que ces virus sont immunogènes. C'est le principal problème des virus. Alors à côté de ça, des chimistes ont développé des techniques non virales, des moyens artificiels pour aider des gènes à pénétrer dans les cellules. On va en parler pendant essentiellement le reste de mon exposé, puisque je suis chimiste. Et ces moyens, on va voir, sont bien plus primitifs que les solutions qui ont été trouvées par les virus pour pénétrer dans les cellules. Mais par contre, à condition que l'on n'utilise pas de protéines étrangères, on peut espérer que ces façons-là de faire pénétrer des gènes dans les cellules ne seront pas, ou en tout cas très peu, immunogènes. Voilà donc les avantages et les inconvénients de ces deux grandes catégories de vecteurs pour aider des gènes à pénétrer dans les cellules. Alors, quelles sont les structures chimiques de ces vecteurs non viraux de première génération qui ont été développés dans la première moitié des années 90, on va dire essentiellement? Eh bien, ce sont des molécules qui sont polycationiques. Si vous vous rappelez que l'ADN est un polyanion avec plein de charges négatives, eh bien, ces vecteurs sont des polycations avec plein de charges positives. Et il est facile de comprendre que si l'on mélange un polyanion avec un polycation, eh bien, les deux vont s'associer pour des raisons électrostatiques, ils vont s'attirer l'un l'autre. Et puisque l'ADN est une molécule qui est étendue à cause de la répulsion entre les charges de même signe qu'elle porte, eh bien, si on la mélange avec un polycation, on va diminuer cette répulsion et l'ADN va se condenser, va se compacter et passer d'une forme étendue à une forme compacte qui commence à ressembler, si vous voulez, un peu à une particule virale. On a condensé l'ADN. Alors, ceci est vrai. Les premières molécules qui ont été développées sont des lipides cationiques qui déjà s'agrègent eux-mêmes les uns avec les autres pour que leur chaîne hydrocarbonée évite l'eau. Donc, ce qui rencontre l'ADN, c'est une surface polycationique. Ou alors, des vecteurs développés plus récemment sont des polymères cationiques. Donc, on a des particules qui, par un mécanisme qu'on ne comprend pas encore très bien et dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, vont faire pénétrer cet acide nucléique dans la cellule et éventuellement jusqu'au noyau de la cellule où ils vont le libérer. Alors, si l'on regarde l'efficacité, la meilleure qu'on en a pu obtenir avec ces systèmes très primitifs de première génération, eh bien, on a une efficacité d'environ un gène pour un million de gènes à l'extérieur de la cellule. Alors le rendement pour un chimiste, c'est quasiment nul, c'est rien du tout. Un par million qui pénètre jusqu'au noyau. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, on parle en nombre de molécules. Et à titre de comparaison, un microgramme d'ADN contient, par exemple, 100 milliards de molécules du gène. Donc, avec un microgramme, on peut quand même déjà faire quelque chose, transfecter un certain nombre de cellules. Alors, je vous ai dit que la première génération de ces vecteurs sont des lipides cationiques. Alors ici, au lieu d'avoir cette structure très schématique avec une tête polaire et une chaîne hydrocarbonée qui va s'auto-associer dans l'eau pour éviter le contact avec l'eau, je vous ai représenté ici la structure chimique un peu plus précise d'une de ces molécules, d'un de ces types de molécules, qui sont appelées des lipopolyamines parce que leur tête polaire est une polyamine qui, dans ce cas-ci, s'appelle la spermine, qui est une molécule que l'on retrouve dans le noyau de toutes les cellules eucaryotes. Et ces molécules ont été poussées jusque dans des essais cliniques, notamment contre le cancer aux États-Unis et contre la mucoviscidose en Angleterre. Elles n'ont pas tenu leurs promesses, elles n'étaient pas assez efficaces dans un contexte in vivo, dans un organisme. Et comme je vous l'ai montré là derrière, en fait, actuellement, elles servent surtout de réactifs pour transférer des gènes dans des cellules pour des expériences juste de recherche dans des laboratoires sur des cellules en culture. Alors maintenant, comment est-ce que ça peut se passer? Comment des molécules finalement aussi primitives que celles que vous avez vues sur la diapositive précédente peuvent faire quelque chose d'aussi complexe que de prendre un gène et de lui faire passer toutes ses barrières successives? Ça veut dire qu'il lui faut beaucoup de propriétés dans la même molécule. Alors voici ce que l'on peut voir lorsque l'on regarde en microscopie électronique des cellules en culture, lorsque l'on met ces complexes entre un vecteur cationique et de l'ADN, c'est-à-dire des complexes, des espèces de précipités ou de particules où l'ADN est compacté. Alors ici, vous avez une portion d'une cellule de la peau. Ici, sa membrane externe. Ici, vous avez la membrane nucléaire. Ici, vous avez le noyau. Et ces espèces de petits précipités polymorphes que vous voyez là à la surface et même à l'intérieur de la cellule sont ces complexes, ces associations entre un gène, de l'ADN, et une molécule polycationique qui lui sert de vecteur. Alors, ce que l'on voit avec un plus fort grossissement, c'est que très rapidement, ces complexes se fixent, sont scotchés à la surface de la cellule, et qu'ils pénètrent, qu'ils sont pris par la cellule, par une sorte d'endocytose, qui fait qu'ils se retrouvent à l'intérieur d'une vacuole dans la cellule. Alors, ceci se passe très rapidement, déjà en une dizaine de minutes, on voit toutes les cellules qui commencent à se remplir avec ces complexes d'ADN. Et ce qui a été possible de montrer, c'est qu'en fait, il faut mélanger l'ADN avec un excès de cations, c'est-à-dire que ces précipités portent une charge cationique à leur surface et qui sont captées par des molécules anioniques, qui sont des éparanes sulfates, à la surface de la cellule. Donc on a à nouveau une interaction électrostatique. Au début, c'était l'ADN avec son vecteur, et maintenant, c'est les complexes cationiques avec des molécules polyanioniques à la surface de la cellule. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Si l'on regarde des moments un petit peu ultérieurs, au bout d'une heure ou deux, eh bien, on retrouve certaines de ces vacuoles à l'intérieur de la cellule qui sont proches du noyau. Ici, vous avez la double membrane du noyau. Donc, l'intérieur, ici, vous avez le noyau de la cellule. Ici, vous avez son cytoplasme. Dans cette expérience, l'ADN a été marqué avec des petites particules d'or calibrées pour qu'on puisse le voir à l'intérieur de la cellule. Et il arrive, pas très fréquemment, mais il arrive que ces vacuoles éclatent et qu'on retrouve ces complexes ou l'ADN libre à l'intérieur du cytoplasme de la cellule. Voici pour ce qu'on peut voir par la microscopie électronique. Donc je vous ai résumé un petit peu tout ça sur un schéma qui est plus facile à comprendre et qui me permettra de discuter aussi les étapes ultérieures du transfert de gènes. Donc pour vous résumer l'histoire, ça commence très simplement par une interaction entre ce polyanion qui est l'ADN et un vecteur polycationique pour former une espèce d'association qui contiennent des centaines de molécules des gènes et des milliers de molécules du vecteur. Donc ce n'est pas une molécule avec une autre, c'est des agrégats qui se forment. Ces agrégats se fixent à la surface des cellules, de nouveau par interaction électrostatique, puisqu'ils sont cationiques et qu'on a des charges anioniques à la surface de la cellule. Et un peu comme se forme une fermeture éclair, eh bien la cellule est obligée de manger ces particules parce qu'elle porte à sa surface des résidus anioniques qui, de manière coopérative, vont s'associer et faire que cette particule pénètre dans la cellule, mais toujours entourée, si vous voulez, elle est à l'intérieur d'un ballon constitué de la membrane de la cellule qui a mangé cette particule. Alors, ce qui se passe ensuite est moins sûr, mais pour que l'on retrouve le gène à l'intérieur du noyau de la cellule, puisque une bonne partie de ces cellules sont transformées, du moins lorsqu'on utilise des cellules en culture, eh bien, il faut bien qu'une proportion de ces particules se retrouve libre dans le cytoplasme de la cellule, et il faut bien que l'ADN trouve un moyen ou un autre de pénétrer dans le noyau. Alors, ce que je voudrais vous présenter maintenant, je vous ai parlé des vecteurs de première génération, qui sont donc des lipides cationiques ou des polymères cationiques, mais des entités qui ne contiennent qu'une sorte de molécule. Ce sont donc des vecteurs de première génération où on demande à une entité moléculaire d'avoir plein de propriétés qui font que le gène est transporté jusqu'au noyau de la cellule. Alors, depuis plusieurs années, les chimistes n'espèrent plus trouver la molécule miracle unique qui va faire tout ce travail de manière parfaite. Ils sont devenus un peu plus raisonnables. Ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est des assemblées multimoléculaires, c'est-à-dire plusieurs sortes de molécules qui vont s'associer les unes aux autres autour de l'ADN, et chaque molécule aura une fonction qui va aider l'ADN à passer une de ces barrières qui l'empêchent de pénétrer dans le noyau. Alors, un certain nombre de ces barrières, je vous les ai marquées par une flèche. Le premier problème qui se pose, c'est un problème de diffusion. Je vous ai dit tout à l'heure, ces particules, vous avez vu, sont très grosses, sont très polymorphes. Elles ressemblent d'ailleurs davantage à un précipité qu'à un virus. Et donc, la question est, comment est-ce qu'on pourrait faire que ces particules diffusent mieux? Et évidemment, plus elles sont petites, mieux elles vont diffuser. Donc, la question se ramène à comment est-ce qu'on peut faire des particules les plus petites possibles en condensant l'ADN. Deuxième problème, c'est comment est-ce qu'on peut, en copiant des virus, si vous voulez, faire que ces particules rentrent de manière efficace dans les cellules? Comment est-ce qu'on peut cibler certains types cellulaires à l'intérieur d'un organisme? Le troisième problème est comment est-ce qu'on peut aider, parce qu'avec les vecteurs de première génération, ça ne se passe pas très fréquemment, comment est-ce qu'on peut aider cet ADN à être libéré dans le cytoplasme de la cellule? Et enfin, le dernier problème est comment est-ce qu'on peut l'aider à trouver les petits trous, les pores nucléaires qui sont dans la membrane nucléaire et par lesquels éventuellement l'ADN peut pénétrer dans le noyau. Et si j'ai le temps, je vais vous traiter séparément ces quatre cas de figure. Et si je n'ai pas le temps, ma foi, je m'arrêterai au bout d'une cinquantaine de minutes. Alors, le premier problème, un problème de diffusion, c'est donc un problème juste physique. Plus une particule est grosse, eh bien, moins elle va voyager de manière efficace à l'extérieur de la cellule, et d'ailleurs à l'intérieur de la cellule également. Alors, quel est le problème? Je vous le rappelle, ici, c'est de nouveau un cliché de microscopie électronique d'une cellule sur laquelle, une cellule en culture sur laquelle on a mis ces complexes entre un gène et son vecteur cationique, et vous voyez que ce qui tombe sur les cellules, c'est très gros. Ici, vous avez de nouveau la cellule, vous avez son noyau, ici, vous avez des organelles intracellulaires qui sont les mitochondries, et accidentellement, cette culture de cellules était infectée par un virus, ce qui nous donne incidemment une échelle de taille. Alors, vous voyez au bout de ces flèches, ici vous avez un virus, qui fait de l'ordre de 80 nanomètres. Et voici ce que sont les particules avec les vecteurs, ce qu'on appelle les virus artificiels. Ça n'a rien à voir. Elles sont infiniment plus grosses. Et on peut calculer le nombre de copies d'ADN que chaque particule contient en fonction de sa taille, puisqu'on connaît le volume d'une molécule d'ADN. Eh bien, le calcul donne, par exemple, la chose suivante. Une particule de 200 nanomètres, qui est à peu près, disons, l'une des plus petites particules que vous voyez en noir, celle-ci, font à peu près 200 nanomètres de taille, eh bien, elles contiennent environ 500 copies du gène, ce qui est une forme de gâchis. Alors, on s'est posé la question, et beaucoup d'autres groupes de recherche également, qu'est-ce qui arriverait si on était capable de condenser chaque molécule d'ADN sur elle-même et qu'elle n'aille pas s'agréger avec ses voisines? Eh bien, si on pouvait faire ce qui est donc appelé la condensation monomoléculaire de l'ADN, eh bien, on fabriquerait des particules qui, au lieu d'avoir 200 nanomètres ou des tailles voisines du micron, feraient une taille de l'ordre de 25 nanomètres, c'est-à-dire qu'elles seraient même plus petites que des rétrovirus ou que l'adénovirus, qui sont des vecteurs utilisés par ailleurs dans la thérapie génique. Et c'est devenu notre but, un peu notre obsession. Alors avant d'essayer de résoudre le problème, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que les particules sont si grosses ? Avant d'essayer de résoudre le problème, il faut d'abord se demander pourquoi les choses sont ainsi. Eh bien, les choses sont ainsi parce que l'association entre l'ADN, qui a typiquement 10 000 charges négatives, et le vecteur cationique, on va supposer qu'il a au moins une centaine de charges cationiques, est quelque chose qui est pratiquement un processus irréversible. Parce que l'interaction entre quelque chose qui fait 100 charges plus et quelque chose qui fait 10 000 charges moins est tellement forte qu'une fois qu'ils se sont trouvés, ils ne se reséparent plus. Et de manière intermédiaire, lors de la formation de ces complexes, lorsque l'on mélange une solution d'ADN avec une solution du vecteur cationique, il n'y a pas juste quelques molécules d'ADN. Si vous vous rappelez, un microgramme d'ADN fait quand même 100 milliards de molécules. Donc on a 100 milliards de molécules dans une solution, on a quelques milliers de milliards de molécules de vecteurs cationiques, on mélange tout ça, et on est déjà content lorsqu'on n'a pas juste la formation d'un gros blob au fond du tube à essai. Parce que de manière intermédiaire, vous avez des complexes qui se sont formés, qui ont un petit excès de charge cationique, d'autres molécules d'ADN qui sont en train de se condenser, qui ont un excès de charge anionique, lorsque ces deux-là vont se rencontrer, eh bien, ils vont rester ensemble et plus se séparer. Ce qui fait que l'on forme des particules qui ont de 100 à 1000 molécules d'ADN par particule et qui sont polymorphes. Par contre, eh bien, ces particules pénètrent dans des cellules en culture, tout simplement parce qu'elles sont tellement grosses qu'elles tombent sur les cellules. Lorsque l'on fait une culture de cellules dans une boîte de pétri, on a les cellules qui sont au fond de la boîte. Ces particules, lorsqu'on verse la solution dessus, eh bien, elles tombent dessus. Donc toutes ces particules, plus ou moins, trouvent la surface de la cellule. Par contre, in vivo, dans un organisme, on a très peu de chances que des particules aussi grosses puissent diffuser dans un environnement qui n'est pas celui d'une solution aqueuse. Donc, puisque ces particules sont grosses parce que le vecteur est un polycation, qu'en serait-il d'un oligocation? C'est-à-dire, réduisons la taille de ce polycation que l'on mélange avec l'ADN jusqu'à faire des choses qui soient réversibles, c'est-à-dire des interactions qui soient nettement moins fortes que celles d'un polycation. Et effectivement, si l'on mélange des oligocations, comme celui-ci, comme la spermine, ou si au lieu d'utiliser des lipides cationiques qui sont strictement insolubles dans l'eau, on utilise des détergents cationiques, des sortes de savons qui, au lieu de former des liposomes, forment des micelles et qui sont en équilibre dynamique très très rapide, eh bien, on peut espérer avoir une interaction réversible. Et qui dit réversible dit que la thermodynamique est obéie. Et l'un des principes de la thermodynamique dit que dans une solution, dans un système isolé, l'entropie va être la plus grande possible. Et qui dit entropie, si vous vous souvenez de vos souvenirs de thermodynamique statistique, dit grand nombre de particules. Et pour faire le plus grand nombre possible de particules, eh bien, idéalement, chaque particule ne contient plus qu'une copie du gène. C'est effectivement ce que l'on peut vérifier expérimentalement. Dans la littérature, on trouve un grand nombre d'articles qui montrent que lorsque l'on mélange un gène avec un oligocation ou avec un détergent, eh bien, on fait des particules qui sont petites, qui contiennent quelques copies du gène, voire même une seule copie du gène. Le problème, c'est que ces particules ne transfectent pas les cellules en culture, tout simplement parce que cette interaction est réversible. Et lorsque l'on injecte ces particules dans le sang, eh bien on dilue et donc on part dans l'autre sens, l'ADN se décondense et n'a plus aucune raison de pénétrer dans les cellules. Donc d'un côté, on a les particules grosses qui ont la propriété de pénétrer dans les cellules. D'un autre côté, on a les particules idéalement petites, mais qui ne permettent plus de véhiculer l'ADN dans les cellules. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? Eh bien, à nouveau, par la chimie, en faisant ces particules en deux étapes. La première étape consiste à utiliser donc un de ces détergents cationiques ou de ces petits polycations pour faire une condensation réversible de l'acide nucléique. On attend que la solution soit équilibrée, que ces particules soient petites. Et ensuite, eh bien, on fait une réaction chimique à l'intérieur de cette association pour convertir le détergent en un lipide ou l'oligocation en un polycation. On polymérise le vecteur. Alors dans le contexte des lipides cationiques, de ce qui étaient les vecteurs de première génération dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça se traduit de la manière suivante. On commence avec une solution d'un détergent cationique en se plaçant en dessous de sa propre concentration micellaire critique, c'est-à-dire qu'en solution, on a des molécules du détergent qui sont isolées, qui flottent, et l'on rajoute l'ADN à cette solution. On va avoir une petite interaction, une attraction électrostatique, l'ADN va attirer un petit peu du détergent, et sans doute que localement, on va passer au-dessus de cette concentration d'agrégation. On va créer un début, un germe de condensation de l'ADN qui va amplifier, qui va faire boule de neige, attirer davantage de molécules et finir par condenser l'ADN en des particules donc très petites. Et ce que l'on fait, c'est qu'on utilise un détergent qui est basé sur un aminoacide qui s'appelle la cystéine, dont on peut faire des dérivés qui ont une chaîne hydrocarbonée et les transformer donc en détergent. Et la cystéine est un aminoacide très particulier qui a un groupement thiol et dans des conditions oxydatives, tout simplement en présence d'oxygène de l'air, ce thiol va faire dimériser le détergent et le dimère de ce détergent va avoir deux chaînes hydrocarbonées et ressembler comme deux gouttes d'eau à un lipide. Et ça, ça va se faire à l'intérieur de cette association du détergent et de l'ADN. Alors voilà pour le principe. Et de temps en temps, les principes se vérifient expérimentalement en science. Ce n'est pas très fréquent. Quand ça arrive, on est très content. Et vous pouvez voir, cette fois-ci, ce cliché de microscopie électronique, qu'au lieu d'avoir un précipité avec des particules très grosses et polymorphes, cette fois-ci, on a des petites sphères qui ont une taille de l'ordre de 25 à 30 nanomètres. Donc, toutes les particules, cette fois-ci, sont des sphères, ont la même taille, et cette taille est compatible avec le volume d'une seule molécule d'ADN. Donc, c'est la condensation monomoléculaire de l'ADN qui est rendue possible par cet artefact de dimérisation du détergent à l'intérieur du complexe avec le gène. On va peut-être sauter ça. Alors maintenant, ce que nous essayons, voici pour la première étape, maintenant ce qu'il faut faire, c'est faire pénétrer ces petits agrégats dans les cellules, qui est l'étape numéro 2. Alors ce que nous essayons de faire actuellement, c'est de cibler des cellules tumorales. On sait qu'un grand nombre de cellules tumorales surexpriment un récepteur à leur surface parce qu'elles ont besoin de capter beaucoup d'acide folique, qui est la vitamine B6, à l'intérieur de ces cellules parce qu'elles se divisent rapidement et parce que, d'ailleurs, par ailleurs, elles excrètent l'acide folique, elles n'arrivent pas à le garder. Donc, elles surexpriment à leur surface une molécule qui va fixer l'acide folique. Et ce que nous faisons actuellement, c'est de fixer à la surface de ces particules que nous avons fait à l'aide d'un détergent que nous avons laissé en présence d'oxygène de l'air se dimériser en lipides, eh bien nous fixons à leur surface des résidus d'acide folique. Et ce que nous espérons, c'est que ces particules vont se fixer spécifiquement et être internalisées par les cellules tumorales. Maintenant, venons-en à l'étape ultérieure. Comment est-ce qu'on peut aider ces petites particules à quitter ces vacuoles à l'intérieur de la cellule? Alors ici, il faut un signal, parce qu'il faut rompre la membrane à ce niveau-là. Mais il faut surtout se garder de rompre la membrane à ce niveau-là, sinon on va faire des trous dans les cellules, ce qui n'est pas bon pour la survie de la cellule. Alors comment est-ce qu'on peut à la fois faire quelque chose qui n'agisse pas sur cette membrane-là et qui agisse sur cette membrane-là? Il faut un signal, il faut quelque chose qui dise au complexe « tu es dans la cellule, tu n'es plus à la surface de la cellule ». Et ce signal est d'ailleurs utilisé par une grande variété de virus. Et ce que l'on sait, c'est que la plupart de ces vacuoles, appelées des vacuoles d'endocytose, deviennent acides à l'intérieur afin de dégrader ce que la cellule, les macromolécules et les particules que la cellule mange. Le pH devient acide. Et donc, le truc, c'est d'essayer d'utiliser ce changement de pH comme signal pour faire que ce que la cellule a mangé soit capable de rompre cette membrane. Donc on va utiliser l'acidification de ces endosomes comme signal et comme processus pour aider ces complexes à quitter ces vacuoles. Alors, ce qu'on a utilisé pour faire cela, c'est cette molécule-là, qui n'est cette fois-ci plus un lipide cationique, mais c'est un polymère cationique, qui est donc l'autre famille de molécules que je vous ai décrite tout à l'heure comme étant capable de transférer des gènes dans des cellules. Cette molécule s'appelle la polyéthylénimine. C'est un homopolymère. Tout au long de sa chaîne, où que vous vous mettiez, vous avez cette répétition, atomes d'azote, de carbone, azote, etc. Et cette molécule, c'est donc une polyamine qui a un grand nombre de fonctions amines. Ce que l'on sait par la chimie, c'est que ces fonctions amines sont capables de prendre des protons, de se protoner, ce sont des bases, et donner donc des cations ammonium. Donc, c'est un polymère cationique qui, comme tous les polymères cationiques, est capable de s'associer par interaction électrostatique avec l'ADN, etc., de condenser l'ADN et de faire pénétrer cet ADN éventuellement dans les cellules. Mais ce que la polyéthylénimine a de remarquable par rapport aux autres polyamines, c'est qu'à pH neutre, toutes ces fonctions amines ne sont pas protonées. Et si l'on effectue une titration de la polyéthylénimine par de l'acide chlorhydrique, par exemple, eh bien, on voit qu'à pH 7, seulement 20% environ de ces fonctions amines sont protonées. Ce qui veut dire que 80% de ces fonctions amines peuvent jouer le rôle d'un tampon, c'est-à-dire d'accepter des protons si le pH venait à descendre. Et à pH 5, qui est le pH à l'intérieur de ces vacuoles acides à l'intérieur des cellules, eh bien, vous avez environ 50% de ces fonctions qui sont protonées. Ce qui veut dire que 30%, 50 moins 20, de toutes ces fonctions amines peuvent jouer le rôle d'une éponge à protons et vont éponger les protons dans les vacuoles. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, ça peut avoir la conséquence suivante. C'est qu'une fois que ces complexes donc, d'ADN et de polyéthylénimine sont dans la cellule, il y a des petits canaux, des ATPases, qui vont pomper des protons à l'intérieur. Il y a aussi un canal chlorure qui va laisser rentrer des ions chlorure pour des raisons d'électroneutralité. Et ça va continuer. Et la polyéthylénimine va tout doucement se protoner davantage. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de polyéthylénimine, si vous vous souvenez des clichés de microscopie électronique. Ces vacuoles sont littéralement remplies par les complexes. Donc on a une très grande concentration de ces fonctions amines. Et la concentration en ions, au fur et à mesure que le pH descend, va augmenter. Et devenir beaucoup plus importante qu'elle ne l'est de l'autre côté de cette membrane de la vacuole. Ce qui fait que de l'eau, pour des raisons osmotiques, va pénétrer dans ces vacuoles pour essayer de diluer cette grande concentration de sel. C'est un peu la raison pour laquelle le chlorure de sodium peut être hygroscopique, de manière schématique. Donc de l'eau va pénétrer et va faire gonfler cette vacuole, et peut-être va la faire gonfler jusqu'à ce qu'elle se rompe spontanément. Et ainsi libérer ces complexes à l'intérieur du cytoplasme, dans le cytoplasme de la cellule. Alors jusqu'à très récemment, c'était une hypothèse. Et cette année, un groupe de l'université de Marbourg, le groupe du professeur Kissel, a pu visualiser cette rupture soudaine, probablement, de ces vacuoles. Ici, vous avez une cellule prise au microscope, à fluorescence. Dans cette expérience, la polyéthylénimine, qui est donc l'éponge à protons, a été marquée avec un fluorophore vert. L'ADN, qui dans ce cas-ci est un ribosome, a été marqué avec un fluorophore rouge, ce qui fait que les complexes de PUI et d'ADN, c'est la composition donc du vert et du rouge, apparaissent comme des spots qui sont jaunes. Et si vous suivez, ensuite, on a été pris toutes les 3 minutes un cliché. Et on va voir ce que ça donne. Si vous suivez ce qu'il y a au bout de cette flèche, ce complexe donc particulier qui se trouve à l'intérieur de la cellule, eh bien, 3 minutes plus tard, il se trouve ici. Encore 3 minutes plus tard, il se trouve ici. Et soudain, vous voyez, il s'est passé quelque chose qui fait que la cellule, son cytoplasme, est devenu vert, qui est le signe que la polyéthylénémine a été soudainement, pendant ces 3 minutes, relâchée dans le cytoplasme. Et la surface de ces complexes est devenue rouge, ce qui montre qu'il y a cette fois-ci un excès d'ADN à sa surface, et que donc la polyéthylénémine provient bien de la rupture de cette vacuole qui, au départ, était isolée du cytoplasme de la cellule. Alors voici, ça c'était une preuve visuelle. Une preuve plus indirecte avait été obtenue avant par Antoine Kichler, ici au Généton, à Évry, qui a montré que si l'on empêche l'acidification de ces endosomes en mettant un inhibiteur de ce canal à protons, si on empêche l'entrée des protons dans ces vacuoles, eh bien l'efficacité du transfert de gènes, ici c'est une échelle logarithmique, diminue d'environ un facteur 100. Donc les ions H+ ont bien quelque chose à voir dans le film de la transfection aidé par la polyéthylénémine. Cette molécule est donc très efficace pour transférer des gènes, du moins des gènes sur des cellules en culture, ce qui a conduit à la création d'une société il y a un peu plus d'un an à Strasbourg qui s'appelle Poly Plus Transfection et qui donc valorise cette découverte. Alors qu'en est-il du transfert de gènes in vivo, puisque le but finalement c'est pas de transférer des cellules en culture ou de créer des sociétés, le but c'est d'essayer de faire de la thérapie génique, c'est-à-dire de transférer des gènes dans un organisme in vivo. Alors ici vous avez un exemple qui est très positif pour la polyéthylénamine, qui est un travail réalisé par Grégory Lemkin, qui soutient d'ailleurs sa thèse dans environ 3 semaines, dans le laboratoire de professeur Barbara Domenech au Muséum d'Histoire Naturelle, tout près d'ici, qui a injecté dans le ventricule du cerveau de souris des complexes de polyéthylénamine et d'ADN. Et ici, vous voyez différentes coupes réalisées à travers le cerveau. Les cellules qui expriment ce gène qui a été injecté peuvent être marquées et apparaissent ici en bleu. Et l'on voit que partout, tout le long des ventricules du cerveau, vous avez des groupes de cellules qui sont transfectées, même encore 1 semaine après que cette expérience d'injection ait été réalisée. Mais ici, on est relativement proche d'une situation des cellules en culture, puisqu'en fait, les cellules qui expriment le gène sont des cellules qui bordent les ventricules et qu'on se retrouve dans une situation où la diffusion des complexes n'est pas un réel problème, puisque en fait, on se retrouve dans une solution et pas du tout dans un tissu. Ce qui se passe actuellement maintenant avec cette molécule, la polyéthylénémine, c'est qu'un certain nombre d'essais précliniques sont en cours, notamment pour le traitement du sida, cancer du pancréas, cancer du larynx, cancer de l'ovaire, dans différents centres anticancéreux en France, aux États-Unis et au Japon. Voilà, il me reste encore quelques minutes. Je vais peut-être vous parler du dernier problème qui est le franchissement de la membrane nucléaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider l'ADN s'il parvient jusque dans le cytoplasme de la cellule, comment est-ce qu'on peut l'aider à franchir cette dernière membrane qui est la membrane nucléaire. Alors, quelle est la hauteur de cette barrière? C'est la première question qu'on peut se poser. Une réponse à cette question ou une mesure de cette barrière a été effectuée par Hélène Pollard dans le laboratoire de Denis Escande à Nantes. Ce qu'a fait Hélène Pollard, c'est qu'elle a micro-injecté, donc elle a squeezé, shunté, si vous voulez, toutes les étapes intermédiaires. Elle a d'abord micro-injecté directement l'ADN dans le noyau des cellules et elle a comparé cette expérience avec des expériences de micro-injection de l'ADN dans le cytoplasme des cellules pour voir combien de molécules se perdaient en route. Alors lorsqu'on injecte l'ADN directement dans le noyau des cellules, on obtient cette courbe-là, qui montre qu'il faut quelques dizaines de copies du gène par cellule, tout de même pour avoir un pourcentage raisonnable de ces cellules qui expriment la protéine correspondant à ce gène. Mais ce qui est important dans cette expérience, c'est que si l'on injecte au lieu du noyau, on injecte le cytoplasme des cellules, eh bien, on voit que cette courbe est déplacée d'environ 3 ordres de grandeur. Ce qui veut dire qu'au plus, 0,1% des gènes que l'on injecte dans le cytoplasme des cellules finissent dans le noyau, ce qui vous donne une idée de la hauteur de cette barrière. Alors, comment se présente la membrane nucléaire d'une cellule eucaryote? Eh bien, elle est percée d'une multitude de petits pores qui permettent à beaucoup de molécules qui ont besoin de voyager entre le cytoplasme et le noyau de la cellule de passer. Et ce pore est relativement sélectif à partir de 9 nanomètres. Tout ce qui fait moins de 9 nanomètres peut passer librement d'un côté à l'autre de la membrane nucléaire, ce qui correspond à des protéines d'une taille d'environ 50 000 dalton de masse moléculaire. Ensuite, pour des macromolécules ou des particules jusqu'à 35 nanomètres, eh bien, elles peuvent quand même encore passer à travers ces pores nucléaires, à condition d'avoir un signal qui leur permette de pris en charge par un mécanisme d'import nucléaire qui va consommer de l'énergie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait spontanément. Et donc, il faut des molécules transportrices qui vont aider ces molécules à passer. Alors, le mécanisme d'import nucléaire endogène à la cellule qui est le mieux décrit, qui date du milieu des années 80, est celui qui est médié par des peptides signaux de localisation nucléaire. Ici, vous avez une séquence typique d'aminoacides d'un peptide NLS, c'est proline, lysine, 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 arginine, lysine et valine. Ce qui veut dire que si une protéine porte à sa surface ce signal peptidique, elle va être reconnue par une protéine qui s'appelle l'importine alpha, et une fois que ce complexe, une fois que cette association s'est faite, elle est reconnue par une autre protéine, l'importine bêta, qui va fixer ce complexe ternaire à des espèces de microfilaments qui vont vers le cytoplasme et qui sont fixés au pore nucléaire. Et avec l'aide d'une petite protéine qui est une GTPase, eh bien, on va avoir un transport actif de cette protéine jaune jusque dans le noyau de la cellule. Le complexe se dissocie et les autres molécules partent pour un cycle ultérieur de transport. Donc voilà comment ça se passe naturellement. Alors maintenant, quelle est la situation pour l'ADN ? Un gène typique d'environ 5 kilobases de taille fait environ 1 million de dalton de masse moléculaire. C'est-à-dire qu'il est bien plus gros que la taille limite de passage libre des protéines. Mais un gène n'est pas une molécule globulaire compacte comme c'est typique pour des protéines. Un gène, à cause de la répulsion des phosphates, est une molécule étendue. Et ce n'est pas la limite de masse moléculaire qui s'applique dans ce cas-ci, mais ce sont les dimensions physiques de la molécule. Et son diamètre est de l'ordre de 3 nanomètres, c'est-à-dire 3 fois plus petit que la taille limite de diffusion libre. Ce qui veut dire qu'en principe, l'ADN, s'il se présente de cette façon-là, en direction du pore nucléaire, peut très bien passer à travers le pore nucléaire. Le problème, c'est que l'ADN ne diffuse pas très bien et pas librement dans le cytoplasme. Le problème, c'est aussi qu'il n'y a qu'une dizaine de pores par micromètre carré de membrane nucléaire, c'est-à-dire qu'il va avoir de fortes chances juste de toucher la membrane nucléaire et pas d'arriver au niveau d'un pore nucléaire. Et enfin, il n'y a pas de raison, lorsqu'il a commencé à rentrer, pourquoi il ne ressortirait pas? Qu'est-ce qui ferait qu'il pénétrerait une fois qu'il a trouvé le pore nucléaire? Donc, en résumé, la probabilité que ça se fasse spontanément est très faible, mais ça se fait néanmoins puisque l'on peut transfecter des cellules juste avec de l'ADN et un vecteur polycationique. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme stratégie? Comment est-ce qu'on peut l'aider à trouver le pore nucléaire? Eh bien, néanmoins, par exemple, en fixant à une de ses extrémités un peptide de localisation nucléaire qui va faire que l'importine alpha et l'importine bêta vont fixer une des extrémités de cet ADN et le piloter jusqu'à un pore nucléaire et éventuellement le faire traverser le pore nucléaire, du moins pour une fraction. Et ce que l'on sait ensuite, et c'est des travaux très anciens, déjà il y a une vingtaine d'années, de Moshe Yaniv à l'Institut Pasteur, qui a montré qu'en fait, l'ADN ne va pas rester juste nu dans le noyau de la cellule et qui va être très rapidement pris en charge par des protéines nucléaires, qui sont les histones, et convertir cet ADN, l'enrouler et probablement, comme c'est représenté ici, le tirer à l'intérieur du noyau de la cellule, un peu comme on enroule un spaghetti autour d'une fourchette. Mais ce dont il faut se garder, c'est de mettre trop de peptides NLS, parce qu'on pourrait se dire, a priori, plus on en met, eh bien, plus la probabilité va être grande que ce processus ait lieu. Mais un simple calcul montre que déjà, de l'ADN d'une longueur de 1 kilobase, ce qui est plus petit que la taille moyenne d'un gène, si l'on met un signal à chacune de ses extrémités, eh bien, avec 10 spores par micromètre carré, on va déjà faire ça qui, évidemment, n'est pas très bon pour faire pénétrer l'ADN dans le noyau de la cellule. Ce qui a donc été réalisé, c'est la fixation chimique d'un peptide NLS à l'une des extrémités d'un gène, l'autre extrémité étant simplement refermée pour éviter en fait qu'elle soit grignotée par des nucléases qui reconnaissent très facilement des extrémités libres de l'ADN. Et effectivement, si l'on prend ce fragment, ce gène, avec un peptide NLS à une des extrémités, et qu'on le mélange, par exemple, à la polyéthylénimine, ceci sont des expériences qui ont été réalisées sur des cellules en culture, eh bien, on voit que la transfection, le transfert de gènes, ici, c'est le gène de la luciférase qui a été transfecté, ce qui fait que cette échelle, en fait, c'est une échelle obtenue par luminométrie de la luciférase, qui est l'enzyme qui est responsable du fait que la queue du ver luisant femelle est luminescente. Eh bien, on voit que cette transfection est très efficace et jusqu'à 1000 fois plus efficace que si l'on n'a pas ce peptide NLS à son extrémité, qui sont ces graphes ou ces petits trucs bleus. Et pour montrer que cet accroissement d'efficacité est bien dû à l'import, au mécanisme d'import nucléaire, eh bien, l'une de ces séquences a été modifiée. Une des lysines a été remplacée par un aminoacide qui s'appelle la tréonine. Et ce qui est connu dans la littérature, c'est que cette modification abolit l'interaction avec l'importine alpha et donc le mécanisme d'import nucléaire. Et vous voyez que si au lieu d'utiliser ce gène qui a ce peptide NLS, on utilise le gène avec le peptide NLS muté, on retombe au même niveau que si l'on n'avait pas de peptide du tout. Ce qui montre a posteriori qu'on est bien rentré par le mécanisme d'import nucléaire. Voilà, j'en ai à peu près fini. Mais avant de finir, je voudrais remercier mes nombreux collaborateurs qui ont rendu ce travail possible. Ils sont pratiquement tous sur cette photo qui date d'il y a quelques années. Maintenant, un certain nombre d'entre eux sont partis. Pour ne pas oublier de nommer des personnes, je vais nommer juste les personnes qui actuellement sont encore dans mon laboratoire. C'est Jean-Serge Rémy et Guy Zubert, qui sont respectivement chargés de recherche, non pas respectivement d'ailleurs, qui sont chargés de recherche tous les deux dans le laboratoire. Je voudrais aussi, en guise de conclusion, dire mon credo de chimiste. Dans tout ce que je vous ai montré, dans les différentes façons que l'on peut trouver pour améliorer le transfert de gènes, certaines ont été juste copiées, et d'ailleurs qui sont des pâles copies de la façon dont les virus pénètrent dans les cellules. C'est par exemple l'utilisation des mécanismes d'import endogène de la cellule ou encore la fixation sur certains récepteurs à la surface des cellules. Par exemple, le virus Ebola utilise le récepteur à l'acide folique pour pénétrer dans les cellules. Mais parmi les autres mécanismes que je vous ai décrits, les deux autres d'ailleurs, n'ont pas été utilisés par la nature. En effet, aucun virus n'utilise la dimérisation d'un détergent en un lipide pour condenser son génome. Et aucun virus n'utilise une éponge à protons pour augmenter la concentration ionique et faire éclater un endosome. Donc, il est possible de copier les virus, mais il est aussi possible de trouver des solutions originales que la nature n'a pas trouvées. Et ce que nous espérons, en tout cas, c'est qu'en combinant ces deux approches, on finira bien par trouver des associations de molécules qui seront suffisamment, même si elles ne sont pas parfaites, suffisamment efficaces pour transférer des gènes in vivo. Je voudrais aussi remercier le CNRS, l'Université Louis Pasteur, pour leur soutien constant. Je voudrais aussi remercier deux associations caritatives, l'AFM et Vaincre la mucoviscidose, qui ont soutenu ce travail dès l'origine. Et finalement, je voudrais vous remercier pour votre patiente attention. Merci.
Je voudrais juste vous poser une petite question sur le, à propos de la membrane cellulaire. Vous avez indiqué 10 pores par micromètre carré. Or, un micromètre carré, c'est un millionième de mètre carré, donc c'est un millimètre carré. Donc, si je ne m'abuse, non, je ne me trompe pas. Hein, c'est un micromètre carré, c'est bien un millimètre carré.
Non.
Ah, je me trompe alors.
Je crois.
Oui. Compte tenu de la surface du total de la membrane cellulaire, on obtient à peu près combien de pores, si vous voulez, pour un noyau, quoi. Compte tenu du rayon du noyau.
Je n'ai pas fait le calcul. Je pense que ça doit se compter peut-être en dizaines, en milliers ou en dizaines de milliers de pores.
Ah, donc un nombre relativement faible.
C'est un nombre relativement faible, oui. Mmh. Et encore, cette mesure a été faite sur des cellules en culture, des cellules transformées qui se divisent tous les jours, qui se divisent très rapidement et qui ont besoin d'un flux très important de matière entre le noyau et le cytoplasme. Et on peut penser que des cellules normales dans un organisme comportent moins de pores.
Oui, une petite question. Donc, étant donné les rendements que vous arrivez à obtenir avec le PEI pour le moment, comment est-ce que vous faites pour éviter des gros problèmes de mortalité cellulaire lors du relargage de PEI dans le cytoplasme? Parce que je suppose quand même que pour obtenir une quantité d'ADN relativement décente qui doit parvenir donc jusque dans le noyau, les quantités de PEI sont énormes, en fait, non?
Ben, elles sont en rapport du nombre de molécules d'ADN, puisqu'en fait, on fait des complexes qui ont un excès de charge, même de PEI, par rapport à l'ADN. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et on a mis du temps vraiment à raisonner dans ce sens, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une très faible fraction de ces complexes qui ont accès au cytoplasme. L'essentiel de cet ADN reste dans ces vacuoles, et malgré ce mécanisme d'éponge à protons, etc., il n'y a qu'une faible fraction de ces complexes qui sont libérés à un moment donné. Ce qui a l'inconvénient, c'est qu'il faut pas mal d'ADN, mais qui, tout compte fait, est aussi un avantage, parce que ça permet, en fait, ça fait une espèce de mécanisme de relargage lent, qui est quelque chose qui est très actuel en ce moment, on essaie de relâcher lentement des médicaments, et qui fait que sur des jours et des jours, et éventuellement même sur des générations cellulaires, on a un relargage lent de ces complexes. Et tant qu'ils sont à l'intérieur de ces vacuoles, ils sont toxiques pour personne. Ils sont un peu sur une voie de garage par rapport à la cellule qui ne sait pas trop quoi en faire. Ce qui fait qu'une cellule qui a peut-être été transfectée au bout de 24 heures, lorsqu'elle se divise, il ne faut pas oublier que cet ADN que l'on a introduit dans le noyau des cellules, comme il n'est pas intégré dans le génome de la cellule, eh bien, au moment de la division cellulaire, ce gène il est perdu. Donc il faut recommencer l'histoire à zéro. Eh bien, c'est ce relargage lent qui permet de faire qu'on a l'expression éventuellement sur plusieurs semaines. Et on peut extraire ces complexes. Il y a des expériences qui ont montré, par exemple, lorsque l'on transfecte le foie, que si on regarde au bout de 7 jours, on retrouve encore 80% de cet ADN et avec son vecteur. Et l'ADN, d'ailleurs, même pas dégradé, parce que tant qu'il est dans ses vacuoles avec son vecteur, il est protégé de la dégradation. Donc, ça a des inconvénients et ça a des avantages.
Lorsque le complexe atteint le noyau, la question c'est de savoir comment il se fixe sur le génome. Et il se fixe, je suppose, de manière statistique. Et est-ce que vous avez regardé ce problème? Parce que je pense que ça intervient très directement sur l'efficacité thérapeutique, hein, suivant la position du DNA fixé. Et puis ma deuxième question, est-ce que votre complexe polycation ADN n'est-il pas lui aussi immunogène?
Bien, pour répondre d'abord à votre première question, l'ADN ne va pas dans le génome parce qu'il reste juste à l'extérieur du génome de la cellule. Ce qui fait d'ailleurs que si cette cellule se divise, comme cet ADN n'a pas d'origine de réplication, n'a pas de centromère qui permet d'être pris en charge par le faisceau mitotique, eh bien, il va être perdu au cours de la division cellulaire. Donc, il a à la fois les avantages de ne pas s'intégrer éventuellement et de faire quelque chose de pas bien au génome de la cellule, mais il a aussi le désavantage d'être perdu au cours de la division cellulaire. Donc ça, c'est pour votre première question, qui a des avantages et des inconvénients. La deuxième question, c'est le système immunitaire. Alors, ce que l'on constate, et ce que l'on peut d'ailleurs aussi espérer, même avant de faire ces expériences, c'est que, à condition de ne pas utiliser de protéines, on évite tout ce qui est la réaction immunitaire médiée directement par les complexes MHC classe 1 et classe 2, puisqu'il n'y a pas de possibilité de présentation de peptides étrangers à la surface des cellules présentatrices d'antigènes. Donc on évite tout le côté, disons, le plus évolué du système immunitaire des vertébrés. Par contre, ce qui reste, c'est le système du complément, qui fait que ces complexes, en fait, fixent certaines protéines du sang lorsqu'on les injecte dans la circulation sanguine, et qu'ils sont effectivement pris en charge et digérés relativement rapidement par des macrophages du sang. Donc on a une réaction immune médiée par le complément. Mais on n'a pas l'ensemble des réactions immunitaires que l'on a ou que l'on peut avoir avec des virus ou avec des protéines étrangères.
Le gros problème avant pour l'introduction d'ADN dans le noyau, c'est que l'ADN ne pouvait rentrer dans le noyau que lorsqu'il y avait une division cellulaire. Et vous, votre import dans le noyau, est-il tributaire de la division cellulaire? Et vos 10 millièmes d'ADN qui pouvaient pénétrer dans le noyau, est-ce que ce n'était pas dû justement à une division cellulaire?
Si. C'est une question très pertinente à laquelle d'ailleurs vous apportez la réponse. C'est que des cellules qui se divisent sont infiniment plus faciles à transfecter que des cellules qui essentent. Ça, c'est première vérité. Mais il reste néanmoins une autre vérité, que si vous prenez une culture de neurones, donc que vous laissez faire des neurites, qui ne se divisent plus, eh bien vous pouvez néanmoins encore la transfecter. Ce qui prouve bien que certains de ces complexes, ou en tout cas certaines de ces molécules d'ADN, sont néanmoins capables de passer la membrane nucléaire. Mais c'est beaucoup plus difficile que pour des cellules en division, effectivement. Vous avez parfaitement raison.
Jean-Paul Bert, merci beaucoup.
Merci.